Shalom, uvracha, b'shem Hashem, na'aseh v'naslach. On est aujourd'hui le jeudi 14 du mois de janvier et le Rosh Chodesh Shevat, l'Echaim Tovim, ou Shalom, une grande réussite pour vous tous et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Shehitrachu agzerot letova v'livracha pour nous tous, amen v'amen. Shiur aujourd'hui acheté par Laurent Moshe pour la Haskara de sa maman Emily Mina Bat Rachel, zichrona livracha. Il demande aussi l'arrivée du Melech HaMashiach, b'ezrat Hashem, une bonne santé pour tous les enfants d'Israël et longue vie, pour aussi Guy Ayous, ou Ayoun, Ayous, je pense, Ben Esther, en tout cas c'est comme ça que c'est marqué chez moi, une grande teshuvah pour Kol Am Israël, Refoa Shema, pour tout le monde, Bli Yotze Mina Klal, et on rajoutera Leilu Nishmat Kol Mete Israël. Voilà. On va parler maintenant d'un sujet, puisqu'on a déjà donné les noms juste avant, je ne vais pas revenir dessus. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, et qui demande beaucoup d'explications. Donc ce sera un shiur un petit peu long, peut-être une demi-heure. Je voulais faire 20 minutes, mais on verra comment on va le lancer, avec pas mal d'histoires pour illustrer les idées requises pour comprendre qu'est-ce que la providence divine. Alors la première très très bonne nouvelle que vous devez tous savoir, c'est que où que l'on soit, quoi que l'on fasse sur Terre, il y a toujours, toujours Hachem avec nous. On est jamais seul. Ne le croyez pas une seule seconde. Que vous soyez au summum de la pyramide, au plus profond des abîmes, une personne n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'Hachem. Alors, c'est un peu compliqué comme situation, parce que d'un côté, nous avons un mazal qui correspond à notre naissance qui nous accompagne. De l'autre côté, et si quelqu'un vous dit que c'est n'importe quoi, ne le croyez pas, c'est lui qui connaît rien, je le dis avec beaucoup d'humilité. On est, comme le dit Ben Ezra, Ben Shimon Ben Gamliel, la Gemara, le Zohar, trop de références à perdre comme temps. On est avec un mazal le jour de notre propre naissance, comme l'a dit Ben Ezra, malheur à celui qui est né sous mon mazal. Donc, mais on peut le changer avec la prière, on peut le changer de placement d'endroit, on peut le changer avec un changement de nom, ça c'est autre chose. Enfin, quoi qu'il advienne, on est avec un couloir dans lequel on doit s'engager avec plus de possibilités, moins de possibilités si vous préférez. On est face à des plans divins. On est face à des plans divins qui doivent se juxtaposer à ce que nous voulons vivre aussi. Et il y a une finalité. La finalité, c'est que Hachem doit emmener tous ses enfants au monde futur. Ça veut dire qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, faire teshuvah, qu'il ait envie de ceci ou de cela, quoi qu'ils veulent faire, il ne pourra que retarder ou alléger ou endurcir le chemin qui le mènera à son monde futur. S'il ne veut pas faire Torah ou Mitzvot, pas de problème, Dieu va le réincarner, encore dans une famille, et hot pam l'école, et hot pam, et hot pam, jusqu'à ce qu'il fasse teshuvah. Dieu, il a tout son temps, et le temps est dans ses mains. Donc, résultat des courses, Dieu, il a ses plans à lui, et il a créé des routes. Sur ces routes-là, afin de pouvoir mener à bien une situation d'ensemble, car nous sommes tous le peuple d'Israël, Révim, Zé, Lazé, nous sommes tous garants les uns et des autres, ce sera comme une espèce d'échiquier sur lequel se trouvent plusieurs soldats, et le créateur du monde, même si, par exemple, l'échiquier est parfait comme exemple, le soldat, par exemple, ne peut avancer que droit, il ne peut pas aller à droite, à gauche dans un jeu d'échecs, d'accord ? La tour va en diagonale et en horizon, et ainsi de suite. Ça veut dire que le cheval, il fait 2 et 1, d'accord ? Chacun est limité dans ce qu'il peut faire. C'est exactement comme nous, on est limité par rapport à un chemin de vie. Mais celui qui joue des fois, de façon extraordinaire, c'est Hachem. Ça veut dire qu'il ne nous empêche pas de vivre ce que nous pouvons vivre, ou devons vivre, ou sommes limités, mais il va être celui qui va jouer pour nous. Ça s'appelle Hashgacha Pratit, la providence divine. Comment Akadosh Baruch Hu, il engendre les choses de telle façon à ce qu'elles arrivent à ce que lui veut, et en même temps à ce que nous, nous accepterions ou pas de vivre. C'est incroyable, parce que ce sont deux idées complètement opposées, qui nous, on ne connaît pas les pensées de Dieu, mais malgré tout, Dieu, c'est ce qui fait de lui d'ailleurs Dieu, il fait ce qu'il veut et il y arrive très bien. Un des plus grands miracles de la providence divine, c'est les mariages. Comment on se rencontre, un homme et une femme qui sont nés dans deux pays différents, deux cultures différentes, comment Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'ils arrivent à se rencontrer bidouk à un endroit et ils se regardent, et puis 2 ans plus tard, ils se retrouvent. Dis-moi, je ne t'avais pas vu à tel endroit, ça engage une conversation. Et puis d'un coup, ça mène à un mariage. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses, waouh de chez waouh. D'ailleurs, il faut savoir une chose très importante, un des cadeaux que viendra le Melech HaMashiach nous apporter à tous, c'est de dévoiler la providence divine. Dieu va nous expliquer pourquoi les choses ont lieu comme ça, comment c'est arrivé. Parce que ce qui fait peur, c'est que quand on entend providence divine, on a envie de dire « Ah, donc tout est prévu à l'avance ». Pas du tout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que Akadosh Baruch Hu te laisse dans ton libre arbitre, mais place à travers ton libre arbitre des choses qui t'amèneront de par toi-même, parce que tu voulais le vivre, à arriver à des conséquences qui correspondent au résultat que lui voulait qu'il arrive. C'est pour ça que je vous ai préparé quelques histoires. Pour illustrer parfaitement ces idées-là, qui vous permettront non seulement de les comprendre, mais surtout de retrouver une espèce de sérénité. Parce que quand on sait que même si on est à l'hôpital, qu'on est sous la choupa, qu'on est là où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Et quand on sait qu'il est là, on ne perd pas le sourire. Un des plus grands spécialistes de la providence divine, c'était Yosef HaTzadik. Pourquoi Yosef HaTzadik, il a réussi si brillamment à passer toutes ses épreuves avec la femme de Potiphéra, les 12 ans de prison, et ainsi de suite? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Quand tu sais que Dieu est avec toi, t'as peur de rien. Mishima Amin, l'homme est Fahed. Zéa Kadosh Baruch Hu. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet, Rabotai. Gvirotai, Virabotai, pour ceux qui sont intéressés, je vous vraiment conseille de partager ce shiur, qui, à mon avis, est d'abord non seulement très intéressant, mais il est tellement journalier que kedai de l'écouter. Le problème de la providence divine, c'est qu'elle se divise en trois. Ça veut dire quoi? Elle se divise en trois. Il y a la providence divine qui se dévoile du monde d'en haut vers le monde d'en bas. C'est là. Il y a la providence divine que je vais provoquer. Ça veut dire que moi-même, je peux provoquer une providence divine. On va expliquer comment dans une histoire. Et puis, il y a aussi celui qui sait lire la providence divine. C'est très important de le comprendre, parce que des fois on vit des choses et on ne comprend pas qu'on est passé à côté d'une énorme, mais énorme providence divine, et on avance. C'est comme si quelqu'un qui passe à côté d'un grand loto qu'il aurait pu gagner, et puis Chabal, au lieu d'aller l'encaisser son chèque, il passe devant. Alors la première histoire que je vais vous raconter sur la providence divine, je l'ai vécue il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Matin, une femme de la communauté, entre autres, de Tête Vave, je ne donne pas son nom parce qu'elle n'a peut-être pas envie que je le donne, m'appelle pour me raconter qu'elle avait pris la décision, après avoir plusieurs années galéré au niveau de son mazal, pour trouver un zivoug, beaucoup, beaucoup de galères, beaucoup de larmes versées, beaucoup d'amertume, beaucoup de trahison, et un peu découragée, elle a décidé, malheureusement, vendredi, donc demain, elle avait prévu, de contacter une femme qui joue, je crois, au tarot, ou enfin, les cartes, un truc comme ça. Chose qui était strictement, bien entendu, assour. On n'a absolument pas le droit d'aller voir ni des marabouts, chas v'shalom, ni des gens qui jouent avec les cartes. Tamim tivou meshamel okechem. Nous, notre foi, elle est en Dieu. Et de plus, de savoir l'avenir d'un espèce de charlatan ou d'une personne qui... Je vous dis un truc, ces gens-là qui jouent aux cartes et qui vous disent l'avenir avec le café ou toutes sortes de ch'touillottes, ils sont dans une pagaille financière incommensurable, ils n'arrivent pas à sortir de leurs propres problèmes, ils ont des problèmes de shlombeit eux-mêmes, ils ont des problèmes, ils veulent aider les autres. Donc déjà, réfléchissez un petit peu, comme avait dit un jour Coluche, dans un sketch, il avait dit « Je suis parti voir une bohémienne, j'ai tapé à la porte, elle m'a dit « Qui c'est ?» Alors je lui ai répondu « Si tu n'es pas capable de savoir qui est derrière la porte, comment tu vas savoir me dire mon avenir de demain ?» Bon, choses qui sont tellement évidentes, ce côté de Madame Soleil est strictement interdit, mais elle, poussée par l'angoisse et puis le désespoir, elle avait décidé, pris contact donc pour rentrer avec une personne qui serait capable de lui dévoiler pourquoi son mazal est bloqué, pourquoi elle ne trouve pas de mari, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et puis voilà que vers le matin, alors que son portable était éteint sans aucune raison, démarre un cours tout seul. Tout seul ! De qui ? De notre cher et tendre ami, le Rav Shimon Gobert. Et son cours démarre sur le domaine de la Emouna, et qu'il fallait toujours mettre sa confiance en Dieu et de rester simple d'esprit, ne pas essayer de chercher à aller au-delà de cela. Et elle se réveille comme ça, elle est choquée d'abord qui a mis ce cours, qui sort de Facebook, tout seul l'appareil s'est mis, elle m'a expliqué, en route. C'est ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. Il y a une providence divine qui est là. Et qui a appuyé sur ce bouton? Elle me dit personne. Comment? Personne. Pourquoi Dafka, un cours sur l'Aïmouna, en plus de notre ami Rav Gobert Alkar, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins, lui et la Rabbanit, Bezrat Hashem. Il y a beaucoup de... beaucoup de choses qui interviennent comme ça dans nos vies, mais là, c'est une Ashgaha pratique qui s'est dévoilée à elle, et donc, bien entendu, elle a pris la décision de ne plus prendre ce rendez-vous, Chas Veshalom, et de continuer à prier avec un cœur sincère, le Créateur du monde, pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, acquérir de très très grands résultats. Et si Dieu veut, on lui souhaite un bon Khatan pour cette année. La deuxième histoire se passe à Tel Aviv, il y a plusieurs années de cela, avec le Rav Poloch. Donc le Rav Paloch, plus exactement, était un homme extraordinaire qui a tout fait pour faire le Kirouv, c'est-à-dire rapprocher la jeunesse vers la Torah. Car ce qui compte le plus au sein du peuple d'Israël, entre les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées, le plus important, c'est la jeunesse. Il faut le savoir. Donc l'éducation commence à partir des enfants, mais la jeunesse, c'est l'avenir. Et si l'avenir de notre jeunesse est tordu, ça veut dire que les papas qui sortiront dans les générations seront tordus. Donc quelle éducation va encore sortir de ce résultat? En tout cas, comme ça, lui s'est installé dans la Shechouna de Achaïl à Tel Aviv, et il a obtenu à l'époque de la mairie de Tel Aviv une espèce de bunker, comme c'est une espèce de pièce, si vous voulez, sur lesquelles il pourrait faire ses péilouyot, c'est-à-dire ses moadoniot, un centre pour l'étude, pour les jeunes, avec des pizzot, avec des gâteaux, des croissants, pour leur parler de moralité, pour leur parler de Torah en réalité. Et donc la mairie avait trouvé cela intéressant, qu'il y ait une personne qui, sans demander d'argent bien entendu, se donnerait à fond pour s'occuper de la jeunesse, pourquoi pas, un peu plus de moralité, et ainsi de suite. Be'ezrat Hashem. Seulement voilà, la Shrouna qu'il avait choisie était la Shrouna, c'est le quartier qu'il avait choisi à Tel Aviv, était un quartier on ne peut plus hostile à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est un quartier qui était Shrouna Tachaïl, très chilonite, on dit en hébreu, c'est-à-dire profane de Shabbat, profane Yom Tov, pas du tout kashrout, c'est pas leur truc. C'est pas leur truc. Comme ça, ils ont été éduqués malheureusement, mais tout le monde fera tchouva. Et ce rave extraordinaire a réussi, avec tous les efforts du monde, en essayant de les attirer, à avoir maximum 12 personnes à son cours. 12 personnes sur un quartier de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Il a réussi à avoir juste 12 jeunes qui sont venus. Et il était très content. Il disait tous les matins, Baruch Hashem, ce soir viendront 12 jeunes, j'ai sauvé 12 vies. Celui qui sauve une vie, sauvé un monde entier, là il a sauvé 12 jeunes qui venaient à ses cours et qui s'y intéressaient. Seulement voilà que c'était l'hiver, il pleuvait des cordes à Tel Aviv, et quand le Rav arrive pour faire son chiour sur la moralité, il n'y a qu'un seul élève. Celui qui était venu depuis le début, qui était resté fidèle au Rav. Et le Rav était très inquiet, il a dit « Quoi, tu es seul aujourd'hui ?» Il lui a dit « Oui ». Il lui a dit « Bon, c'est pas grave, mieux vaut un que rien ». Il a commencé à poser ses affaires, il a dit « Mais on va essayer d'attendre ». Et là, le jeune lui dit « Écoutez, Gvodara, moi je vous aime beaucoup, vous avez beaucoup de Messirut Nefesh, vous êtes quelqu'un de merveilleux, je m'attache à vous, c'est sûr, je vois que la Torah elle est très sympathique, j'apprends de jour en jour des choses. Vous savez, on n'est pas dans le meilleur quartier pour ce genre de choses-là, et là, comme il pleut, il y a du vent, à mon avis, nos copains ne viendront pas. » Il lui a dit « J'attends quand même ». Et voilà qu'une heure passe, et effectivement, personne ne descend dans le bunker, comme ça, dans cette pièce en bas. Alors le rabbi lui dit « Écoute, s'ils ne viennent pas à nous, on a le devoir d'aller à eux. » Et là, le jeune élève lui dit « Écoutez, Gvodarav, je veux bien être gentil avec vous, mais là, vous n'avez pas compris. On n'est pas à Bnei Brak ici. Vous allez faire quoi? Aller dans la rue? Il n'y a personne dans la rue. Vous allez dire à une personne « Bonjour, ça va? Tiens, tu viens à mon cours de Torah ?» Réfléchissez, c'est pas faisable. » À ce moment-là, le rabbi l'a regardé, il lui a dit « Tu sais, je ne suis pas venu réussir ce que j'avais à faire, je suis venu faire ce que j'avais à faire. Alors, tu m'accompagnes ou tu restes ici? Je vous accompagne. » Ils sont sortis dans la rue comme ça, à Tel Aviv, et il n'y avait personne. Quand je vous dis personne, personne, effectivement, seules des voitures passaient. Et le rabbi lui a dit « Écoute, puisqu'il n'y a personne et qu'on est déjà trempé, eh bien, viens, on monte dans cet immeuble, on tape aux portes. » Il lui a dit « Mais non, ils vont vous appeler la police, arabe, vous n'êtes pas dans les ignanimes, c'est la folie ce que vous voulez faire. » Le rabbi lui a regardé comme ça, il lui a dit « Écoute, tu viens ou tu viens pas ?» Il lui a dit « Je viens avec vous, mais je viens avec vous pour parler, pour pas qu'il vous frappe. Vous êtes un fou, vous allez taper à la porte, lui dire « Bonjour, ça va, voilà, vous avez Jeanne Vartora à faire, est-ce que vous voulez venir ?» Réfléchissez, ils ne vous connaissent même pas. Le rabbi regarde comme ça, « Rav Paloch, à la Shem Varechoto. » Il regarde et lui dit « Tu viens ou pas ?» Il lui a dit « Tovaniba. » Il rentre comme ça dans le premier immeuble, première porte, et le Rav tape à la porte. tape à la porte et on n'entend rien. Personne ne répond. Il n'y a pas de bruit de pas. Il n'y a rien. Le jeune, très content, lui dit, ouais, en plus de ça, aujourd'hui, les gens, ils sortent, ils sont peut-être partis voir leur famille, il n'y a personne, venez, on sort de l'immeuble, venez, on sort, Godarab, l'otov, ce que vous êtes en train de faire, c'est trop. Le rabbi regarde comme ça et lui dit, celui qui travaille pour Dieu, il ne se pose pas de questions. Moi, je suis venu ici pour enseigner la Torah, pour amener les jeunes. Si je passe jusqu'au bout de ce que j'ai à faire, j'aurai des comptes à rendre. Et il tape une deuxième fois cette porte. Toujours pas de répondant. Rien. Alors à ce moment-là, le jeune le prend comme ça, il lui dit, Kvod Rav, vous ne voulez pas qu'on ouvre une autre porte? Vous voyez bien qu'il n'y a personne ici. Il lui a dit, tu sais, dans le judaïsme, c'est marqué, Shchut HaMeshulash Lobimirai Netek. Quand on essaie une chose, toujours trois fois, c'est mon minag. Il tape une troisième fois à la porte, et là, à ce moment-là, ils entendent un bruit bizarre à l'intérieur, une porte qui s'ouvre, des pas qui arrivent vers eux, et la porte s'ouvre, et ils tombent face, nez à nez, avec un Israélien. Le visage pâle, très triste, très très triste. Il le regarde comme ça, il lui dit « Bonjour, shalom ». Il lui dit « Shalom, matarotse ». Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux chez moi ?» Il lui dit « Moi, je veux rien de vous, je suis venu vous donner. Je suis venu vous donner un Dvar Torah. Est-ce que vous voudriez venir juste en bas, c'est en face. J'ai d'habitude 12 élèves, et je voulais savoir si vous étiez intéressé pendant juste une heure de cours de venir écouter un Dvar Torah. Si c'est oui, je serais très heureux. Et si c'est non, on ne vous embêtera pas. » À ce moment-là, la personne lui dit « Vous vous moquez de moi ou quoi? C'est pas possible. » Il lui dit « Non, je ne me moque pas de vous. Je ne suis le Rav Palor. Je suis venu taper à votre porte. » La personne le regarde comme ça et lui dit « Écoutez, venez avec moi un instant. Rentrez. » Ils entrent comme ça dans la maison. Il y a un couloir. Il vient avec moi dans la salle de bain. Et là, quand ils ouvrent la salle de bain, choqués par ce qu'ils voient, il voit une corde qui est placée sur un énorme tuyau qui passait, un tabouret. Il lui dit, il y a un instant, je comptais mettre fin à ma vie. Il y a un instant. Avant que vous me tapiez à la porte, j'étais sur le tabouret, la corde autour du cou, pour me suicider. Parce que j'ai personne, je ne connais personne, ma famille est fâchée contre moi, j'ai pas de goût à la vie, j'ai pas réussi à me marier, j'ai pas réussi à ceci. Donc je me suis dit, de toute façon, qui va me pleurer, c'est quoi la vie? C'est se lever le matin et dormir le soir, ça ne m'intéressait plus. Mais quand j'ai mis la corde autour du cou, je pensais à Dieu bizarrement. Je n'ai pas été un croyant toute ma vie, je n'ai jamais fait Shabbat ni rien. Mais j'ai dit, je ne comprends pas. Voilà, je vais mettre fin à ma vie. S'il y a un bon Dieu, si vraiment il y a un bon Dieu, si j'ai un peu de valeur en tant que juif à vivre sur terre, donne-moi un signe que toi, la Torah, tu voudrais peut-être de moi. Je ne sais pas ce qu'est la Torah, mais ce que je voudrais, c'est que tu me donnes un signe que peut-être la Torah voudrait de moi. Et peut-être qu'avec la Torah, je ferai des nouveaux amis, et ainsi de suite. Au moment où je prononce cette phrase, j'entends à la porte « Qui va taper à ma porte ?» Alors j'ai dit à Dieu, « Bon, on vient de taper à la porte, c'est peut-être... ils sont trompés pour les pizzas, livraison, je ne sais pas quoi. Je ne prends pas ça en compte. S'il tape trois fois de suite à la porte, je saurai que c'est toi. Et vous avez tapé trois fois. Alors j'ai enlevé ma corde de mon cou. Et le pire, c'est que je suis face à un rabbin qui me propose de venir écouter la Torah. Sachez, monsieur, que vous venez de sauver la vie d'un juif. Quelques années passent. Et... on raconte cette histoire pendant un séminaire à Haïfa et une personne lève la main comme ça, avec une kippa, petite barbe. Il se lève devant tout le monde et dit « Je peux confirmer votre histoire parce que l'homme dont vous parlez de Tel Aviv qui voulait se suicider, c'est moi. » Cet homme, non seulement il a fait teshuva avec un itrazek, ça s'appelle la providence divine. Comment Kadosh Baruch Hu boré olam, il engendre que nous fassions des choses, que nous allons provoquer des choses, nous allons compléter des choses. Au niveau de l'intellect, il faut être débile pour faire ce qu'a fait le Rav. Taper à une porte, un quartier hostile au judaïsme, à la Torah, dire « tu veux venir à un Dvar Torah », c'est pas logique. Aval, cet homme-là était poussé par une destinée, par un besoin d'accomplir sa mitzvah de juif, et il n'attendait aucun résultat. Alors, Akadosh Baruch Hu l'a utilisé pour une providence, pour un autre juif. La deuxième histoire que je vous ai préparée, c'est provoquer la providence divine. Alors, Cette histoire a lieu à peu près il y a 9 ans. Ça se passera à Brooklyn, avec deux frères qui possédaient une très 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 belle bijouterie de luxe. Pas une bijouterie standard, une bijouterie pour les gens qui avaient beaucoup d'argent. Et installés donc à Brooklyn, Albert et Yitzhak Farahi, c'est leur nom. Vous retrouverez d'ailleurs cette histoire dans le Kikar Shabbat, dans le journal orthodoxe, puisqu'elle a été racontée là-bas et enregistrée là-bas. Vous pouvez l'entendre, puisque celui qui l'a vécu le raconte à la radio. Et donc, je l'ai copié pour vous la faire partager, parce que la providence divine est incroyable dans cette histoire. Donc, ces deux frères, Yitzhak et Albert, décident de faire Shabbat ensemble avec leur famille. Et voilà que le vendredi soir, ce sont des gens pieux, très religieux, qui étudient la Torah tous les jours et en même temps qui ont une très bonne parnassa grâce à leur boutique, grâce à Dieu, Baruch HaShem. Et voilà que le vendredi soir, alors qu'ils étaient en train de chanter en l'honneur de Dieu, l'épreuve commence. Le téléphone sonne. Et 9 ans de cette histoire, comme je vous l'ai dit, le téléphone sonne et les deux frères se regardent comme ça et ils sont chez Yitzhak, donc Albert est invité chez Yitzhak. Et Yitzhak, il regarde, c'est bizarre qu'on nous appelle, tout le monde sait qu'on est religieux et qu'on ne répond pas au téléphone le vendredi, le Shabbat. Et le téléphone ne cesse de sonner. Quand ça sonne une fois, deux fois, trois fois, alors, à un moment, tu dis, mince, c'est peut-être urgent, il y a peut-être pikuach nefesh. Seulement, Albert, il dit à Yitzhak, bon, qui ça peut être pour qu'il y ait un pikuach nefesh? Notre famille, elle est là. Si c'est un cousin qui est à Miami, on n'est pas médecin et on ne va pas voyager. Donc, lema le chalel, lema. S'il n'y a pas de pikuach nefesh vadaï, pourquoi je ne vois pas l'intérêt. Comme ils ne répondaient pas au téléphone, leur système de téléphone faisait enclencher les enregistrements, les messages qui étaient restés. Et d'un coup, après avoir laissé passer plusieurs fois le téléphone sonner, s'enclenche la messagerie. Et la messagerie dit comme ça, « Bonjour, on est bien chez les frères Farahi, veuillez venir immédiatement à votre boutique car elle a été cambriolée, venez immédiatement. » Et là, les deux frères qui sont associés dans cette affaire se regardent, ils disent wow, « Waouh, mince, la police nous prévient qu'on nous a cambriolé la bijouterie. » Et l'un regarde l'autre regarde l'un, et d'un commun accord, il dit « Shabbat Kodesh. » « Ki yeshmera Shabbat el yeshmereni. » Yitzhak dit à son frère, écoute, mazé méchané. S'ils sont déjà, ils ont tout volé, alors quoi, pour de l'argent et de l'or, on va enfreindre Shabbat? C'est Dieu qui donne la parnassa. Ni les voleurs, ni personne ne pourra nous prendre notre parnassa à Rosh Hashanah. Vedachen, qui prennent ce qu'ils ont à prendre, à Kodjou Bourou, il a plusieurs chemins pour nous rendre ce qui a été volé. Et si ça a vraiment été volé et qu'on ne récupère rien, kapara alenu v'alkol am Israël. Mais Shabbat. C'est la source des bénédictions, on ne la lâche pas. Quand on a la source de la bracha, Yitzhak dit Albert, on ne la lâche pas. Albert, il lui dit, t'as raison. C'est quoi? Viens, on chante. Et ils ont chanté encore plus de chansons dans la joie, alors qu'ils savaient dans leur tête que la boutique avait été cambriolée, et c'est pas rien. Motsé Shabbat arrive, ils font l'Avdala, et là, sans aucune hésitation, chacun prend son manteau, et ils courent avec la voiture vers la boutique. En arrivant à la boutique, ils constatent comme ça que la porte a été cassée, les deux gros cadenas sciés. Ils ont réussi à les scier. Et à leur grande surprise, en rentrant à l'intérieur, ben, il ne manque rien. Et le coffre-fort de plus de 2 tonnes et demie, grand coffre-fort sur lequel se trouvaient là-bas toutes les valeurs les plus importantes, eh bien, est resté complètement fermé. Et là, ils sont un peu choqués, ils allument la lumière. Quand d'un coup, ils entendent taper à la porte, ils ouvrent. Et là, surpris, ils voient 2 policiers qui sont devant eux en leur disant « Vous êtes qui ?» Nous sommes les propriétaires, les frères Frachy. Et il lui dit, c'est maintenant seulement que vous venez? Alors, oui. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas venu hier soir? Je pourrais comprendre. Et là, Yitzhak, il dit, parce que nous sommes juifs et que nous sommes Shomer Shabbat. Il lui dit, vous êtes Shomer Shabbat? Et là, le goy, le policier qui n'est pas juif, il lui dit, alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas Shomer Shabbat. C'est votre Shabbat qui vous garde. C'est pas vous qui le gardez. Albert, il regarde comme ça le flic, il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y a 4 malfaiteurs qui sont rentrés ici, armés, qui ont cassé votre porte. Et une fois qu'ils se sont retrouvés à côté de votre coffre-fort, ils ont compris qu'ils ne pourront ni le déplacer ni l'ouvrir. Vous avez un coffre-fort beaucoup trop moderne pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont appelé. Ils vous ont appelé vous disant de venir immédiatement à la boutique parce que vous aviez été cambriolé. Leur but était que vous veniez, une fois que vous veniez avec un revolver sur la tempe, vous forcez à ouvrir le coffre et vous mettre une balle dans la tête pour ne pas qu'il y ait de témoins. Donc, si vous n'êtes pas venu hier soir grâce à votre Shabbat, sachez que c'est votre Shabbat qui vous a gardé. C'est ce qu'on appelle provoquer la providence. Quand je reste fidèle à la Torah, quand je reste avec la Torah, j'ai une deuxième histoire à raconter que j'ai vécu il y a plusieurs années à l'époque d'une jeune fille juive qui m'avait raconté comme ça, soit rapide que je n'avais pas prévu de vous raconter, mais qui vraiment vaut le coup d'être entendue. C'est une fille juive qui m'avait raconté qu'elle avait pris un seul cours de Torah dans sa vie sur l'importance de se préserver pour la choupa, de ne pas toucher un garçon. Et ce n'est pas une fille religieuse spécialement. Et elle a rencontré une personne qui lui plaisait beaucoup. Et bien entendu, la personne l'a emmenée vers la direction du lit. Et quand elle est arrivée presque à faire la faute, elle lui a dit stop, je sais pas, j'ai écouté un cours de Torah et il faut pas que tu me touches, je sais pas bien ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression que je pourris mon mazal, laisse-moi tranquille, ne me touche pas, elle lui a dit. Et la personne lui dit, ouais, t'es une bêcheuse, pour qui tu te prends? Ils se sont pris la tête, résultat des courses, lui, il l'a envoyé balader et elle est partie. Cette fille m'a raconté que Mina Shamaim, elle a appris quelques mois plus tard que ce garçon, avait le sida et qu'il était tellement en colère de sa maladie, de cette situation, qu'il avait décidé, je ne sais pas s'il était juif ou pas, je vous dis franchement, mais qu'il avait décidé de la faire partager avec les autres, tellement il avait de la haine contre la vie. Et cette fille m'a dit, vous vous rendez compte ce que j'ai failli vivre? J'ai failli aller avec une personne, qui m'aurait transmis le sida, tout simplement parce qu'il a su trouver les mots qu'il fallait. Et comment Dieu il a fait en sorte que le seul cours de Torah que j'ai entendu, c'était sur se préserver de ce genre de choses. Mina Shamaim, la providence était avec moi. La troisième histoire, je vous dis, je vous raconterai plusieurs histoires pour la providence, pour illustrer plus clairement qu'est-ce que la providence divine. Donc on a vu comment elle apparaissait, on a vu comment on la provoquait. Ça veut dire que je reste fidèle à la Torah et les mitzvot, le fait d'avoir été shomer Shabbat, ça leur a évité de mourir pour de l'argent. Et non seulement ils n'ont rien perdu, mais de qui plus est, ils ont gardé une grande valeur, celle de la Makor HaBeracha, la source des bénédictions qui est le Shabbat, ne pas enfreindre Shabbat pour de l'argent. Et la troisième histoire que je vais vous raconter se passe, c'est une histoire incroyable, c'est savoir lire la Providence. Très souvent, on vit des choses, mais on ne lit pas la Providence. Et cette histoire-là, elle m'a beaucoup touché. Et j'aimerais vraiment la partager avec vous parce qu'elle est très, très, très belle. Elle est petite, cette histoire, mais qu'est-ce qu'elle est riche à l'intérieur. On est à Kiryat Sens, à Natania, il y a plus de 22 ans, 20, non, il y a plus de 30 ans de cette histoire, où un chassid décide de faire un loto, et les mazalos, alors qu'il a toujours été extrêmement pauvre, il gagne 20 millions de shekels, et c'est le seul gagnant en Israël. 20 millions de shekels, à l'époque, il y a 30 ans. On est compte le nombre d'appartements qu'il aurait pu acheter, au moins 60. Il y a 35 ans en arrière. C'est Loï Ouman qui est sous part. Et peut-être un peu moins, je ne me rappelle plus exactement des années, peut-être 28 ans, peu importe. Et comme un fou, donc il arrive comme ça pour encaisser le chèque. Alors il met le masque, parce qu'il ne veut pas qu'on voit que c'est un religieux, il ne veut pas qu'on voit son visage, c'est un masque comme ça de Pinocchio, ou je ne sais pas quel. Voilà, j'ai pris le chèque, il est comme un fou, et il le met sur son compte bancaire. Bien entendu, les impôts viennent demander leur 35% immédiatement. Et lui, il est comme un fou, et la première chose qu'il va organiser, alors qu'il n'a pas une thune, il viendra gagner 20 millions de shekels, c'est petit 1, prélever le maaser pour avoir la baracha, il réfléchit bien qui va le donner, qui ne va pas le donner, comment il va organiser son maaser, c'est un chassid, donc il est certain que Bezrat Hashem, avec lui, il y aura beaucoup de recettes qui vont être faites, puis, la première chose qu'il organise, dans la grande salle de la synagogue, c'est une seudat hodaya, remercier Hashem, dire nishmat kol chai, toda rabba Hashem. Trois jours plus tard, après avoir fait cette très grande séouda, qui lui a coûté bonbon, il reçoit une lettre, comme quoi qu'il y a eu un bug à l'ordinateur et qu'il n'est pas le gagnant. Il n'est pas le gagnant. C'est souvent arrivé, je vous le dis. Il y a encore eu récemment une histoire avec ça, avec la Teoudat Zehout, ainsi de suite. Et donc, le loto demande de rendre immédiatement tout l'argent. Alors qu'il venait de préparer le chèque pour l'envoyer aux impôts, il arrête tout, il envoie une copie de cette lettre aux impôts disant que Bassoff, il n'a pas gagné. Et dans une joie immense, il rend l'argent. Et là, tous ses copains, ses amis, les conseillers, même un avocat, Il dit, mais non, attendez, vous n'avez pas... pourquoi vous leur rendez l'argent? Trouvez maintenant un deal avec eux. C'est eux qui ont fait l'erreur. Le bug vient de leur côté. Et le chassid les regarde en disant, pas du tout. Tout comme Dieu me l'a envoyé, pour 3 jours, j'ai été riche de 20 millions de shekels, Baruch Hashem, je veux surtout le rendre si Dieu veut que je le rende. Et cet homme-là, sans aucune hésitation, rend les 20 millions de shekels. Le plus incroyable de l'histoire, c'est qu'il réorganise une Seudat Hodea encore plus grande. Donc il s'emprunte de l'argent dans un gmar, il n'a plus d'argent. Et il organise une Seudat Hodea encore plus grande. Et là-bas, il fait un Nishmat Kol Chai de tout son cœur, en remerciant Hachem de toute son âme. Et il leur dit, vous rendez compte comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses. Vous rendez compte qu'il m'a rendu, moi qui ai toujours été pauvre, multimillionnaire, 20 millions de shekels pendant 3 jours. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Et il est comme un fou. Quand la Seouda finit, il y a 2 de ses amis qui viennent le voir et lui disent, tu peux nous expliquer cet enthousiasme? Nous aussi, on est dans la Torah et les Mitzvot, mais là, on ne pige pas. Et le chassid leur a regardé comme ça et leur a dit, vous ne pigez pas parce que vous ne comprenez pas la providence divine. Il lui a dit, toi, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a mis tellement en joie d'avoir eu 20 millions de les perdre et tu es encore plus heureux de les avoir perdus que de les avoir gagnés. Tu peux m'expliquer? Et je vous explique. La Gemara, il leur dit, nous dit que quand un décret s'abat sur un homme et qu'il doit mourir, lo alenu velo alechem, que cette personne, elle a acquis du mérite. Et que ce mérite se tient devant le trône divin pour annuler le décret. Le problème, c'est que l'ange de la mort, il est descendu. Il ne peut pas remonter les mains vides. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il regarde les 2 amis qui étudient la Gemara et lui dit, bah, il lui prend l'argent en général. Pourquoi? Ani chashuv kemet, car le pauvre est considéré comme mort. Et à ce moment-là, il leur dit, vous ne vous rendez pas compte. Moi, il n'y avait rien pour annuler mes décrets dans le monde d'en haut. Qu'est-ce qui va me prendre comme argent? J'ai rien. J'ai un lit qui est pourri, j'ai une chaise qui tient à peine, j'ai rien. Qu'est-ce qu'a fait Boré Olam? Je vous explique. Il m'a envoyé 20 millions de shekels. Il m'a envoyé 20 millions de shekels pour qu'il y ait quelque chose à prendre chez moi. Et 3 jours plus tard, soit 72 heures Gematria Yud, Kevav Kebeyudin, il leur dit le chassid, il m'envoie une erreur bug de je ne sais pas qui, je ne rentre pas dans ses comptes, pour me reprendre cet argent. J'ai fêté une Seudat Hodea d'être certain de vivre longtemps aujourd'hui. Parce que chez Dieu, il n'y a pas d'erreur de bug, il n'y a pas, quand il veut rendre riche, il rend riche, quand il veut rendre pauvre, il rend pauvre. Seulement, j'ai su dire une chose. Pourquoi Dieu m'aurait donné 20 millions de shekels pour me les reprendre? Quel intérêt? C'est horrible de dire à une personne, viens, je te donne la joie pour te rendre triste. Dieu n'est que bon. Et s'il est que bon, et qu'il m'a repris aussi vite qu'il m'a donné, c'est pour m'éviter quelque chose de beaucoup plus grave. J'ai appris hier que cet homme avait vécu jusqu'à l'âge de 97 ans. Et qu'il a eu le temps de vivre le mariage de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et que le jour de son dernier petit-enfant, arrière-petit-enfant qu'il a marié, il aurait dit sous la roupa, ça ne vaut pas plus de 20 millions de shekels que de participer à la joie de sa descendance. Quelques jours plus tard, ou niftar. Kachaya Matsav. C'est ce qu'on appelle savoir lire la providence divine, qui se traduit dans la Gemara de Ta'anit Kaf Alef, Amud Alef, Gamzo Letova. Kol Letova ve Mamash Livracha. Voilà, je vous ai raconté plusieurs histoires sympathiques qui expliquent 3 dimensions de la providence divine, celle de la vivre, celle de la provoquer et celle de la dévoiler. Baruch Adonai l'Olam Amen v'Amen, et je vous souhaite à tous vraiment beaucoup de bonheur et vraiment de comprendre que vous n'avez raison, vous n'avez aucune raison d'être triste parce que Béhémet, tout comme moi, j'ai été hospitalisé dans des conditions un peu difficiles à l'hôpital. Et je vous rappelle que le médecin me disait toujours, parce que le virus, quand on l'a, à ce qui paraît, il provoque un dikaon, il provoque une tristesse comme ça, une espèce de désarroi. Et je reviens, je vais très bien, je vais très bien. Vous êtes sûr? C'est toujours tout. Le matin, le soir, des psychologues entraient dans la chambre et me demandaient si j'allais bien. Baruch Hashem, je vais bien, moralement. Attends, physiquement, j'ai du mal à respirer, appareil et tout. Aval, ils m'ont dit, mais c'est bizarre que vous allez bien. Je leur ai expliqué, vous savez, je ne suis pas seul. Ils m'ont donné une chambre seule, j'ai eu le mérite d'avoir VIP. Et je leur ai dit, non, je ne suis pas seul, je suis toute la journée avec Hashem. Le jour où il veut que je sois là, c'est que c'est bien. Mais il voudrait que je sois là-bas, c'est que c'est bien. C'est que Kabel, Be'ahava, Mamash, parce que quand on est conscient que sur l'échiquier, on a une main qui nous aime plus que tout le monde, qui nous dirige, même si des fois on perd, même si des fois Dieu nous reprend des choses, même si des fois ça ne va pas dans le sens le plus important, quand on sait que c'est Dieu qui est derrière, on n'a aucune raison d'être triste et encore moins d'être angoissé. Baruch Adonai l'Olam Amen v'Amen. Bracha Rebacha v'Atzlacha. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce shiur était pour donc te de Rabba Laurent Moshe pour la scara de sa maman Emily Mina Bat Rachel, Zichron Livracha, et une longue vie pour Guy Ayous, Ben Esther, Teshuva pour Kol Am Israël, Refoua Shlema pour tout le monde, une grande Geoula, Melech HaMashiach Tzidkenu B'Mehera B'Yamenu, Amen, Ve'Amen. Et en même temps, je vous remercie d'acheter des Shiurim, la liste s'allonge, je vais à mon rythme, c'est pas évident. Patience, Bezrat Hashem, vous pouvez aussi prendre, et c'est très conseillé, une journée d'études chez l'Avrechim, puisqu'on transmet automatiquement au Mashgiach d'Avrechim, qui transmet à tout le monde pour prendre une journée d'études pour la Refoua Shlema, pour l'élévation d'une personne décédée ou autre, parce que les cours, j'essaie d'aller à mon rythme, mais je sais que ça va prendre un peu de temps. Donc merci pour ceux qui ont acheté, merci pour ceux qui continuent à acheter, juste un tout petit peu de patience. Si c'est un jour précis, alors on le place, si c'est pas un jour précis, on continue la liste dans l'ordre chronologique des choses. Mamash Toda Rabba pour votre soutien, pour votre amour, pour votre confiance. Vetichye Torah Tonu Akdosha Vatora. Kol Tov.